si le vrai risque pour Cartier, en 2026, n'était pas de manquer de capacité, mais de construire la mauvaise capacité.
Exactement. C'est contre-intuitif parce que les grands noms de l'horlogerie investissent tous. Rolex à Bulle, Audemars Piguet avec sa manufacture Arc, Patek Philippe avec son site de long terme et Richemont autour de Cartier et Valfleurier.
Donc tout le monde agrandit l'outil industriel, alors que les volumes de montres suisses reculent.
Oui, et c'est précisément là que la décision devient stratégique. Les leaders n'investissent pas pour produire plus de montres standards, ils investissent pour produire plus de valeur. Joaillerie, haute horlogerie, métier d'art, verticalisation, qualité, rareté organisée.
La question de départ est donc très concrète. Cartier doit-il adapter ses décisions d'investissement industriel en fonction des perspectives du business?
La réponse courte est oui. Mais pas avec une logique de grande usine monolithique calibrée sur un pic de demande passé. La recommandation B Corp est claire. Investir en flexibilité modulaire, en capacité de valeur et surtout en capital humain.
On parle donc d'une stratégie qui accepte d'investir, mais refuse la fuite en avant.
C'est exactement ça. Bienveillante envers l'ambition industrielle de Cartier, mais non complaisante face au risque de surcapacité.
Dans cet épisode, on va décrypter ce que le marché du luxe et de l'horlogerie dit vraiment à Cartier en 2026.
Et à la fin, l'auditeur doit repartir avec trois idées simples. Premièrement, le luxe ne repart pas de manière homogène. Deuxièmement, la joaillerie et le très haut de gamme portent la valeur. Troisièmement, la contrainte décisive n'est pas seulement l'argent ou les mètres carrés, mais les talents.
Le rapport part d'un constat assez fort. Le marché mondial des biens personnels de luxe est estimé à environ 358 milliards d'euros en 2025, en léger recul à taux courant.
Oui, et Bain Altagamma attend une reprise modérée en 2026, de l'ordre de 3 à 5% à taux constant. Mais les analystes ne sont pas alignés. Certains voient une croissance très prudente, d'autres un rebond plus net.
Donc Cartier ne peut pas construire un plan industriel sur une seule prévision optimiste.
Non, il faut construire un plan robuste à plusieurs scénarios. Et surtout, il faut distinguer la valeur du volume. Les exportations horlogères suisses restent élevées en valeur, mais les volumes reculent. Le marché devient plus petit en pièces, plus riche en valeur et plus concentré.
C'est ce qui explique la recommandation « Ne pas augmenter la capacité de volume, mais renforcer la capacité de valeur ».
Oui, pour Cartier, cela veut dire « joaillerie, haute horlogerie, complications, métier d'art, mouvement maison, qualité d'exécution, service et capacité à soutenir la désirabilité ».
Entrons dans la tension. D'un côté, Richemont et Cartier sont en position de force. De l'autre, le marché est incertain. Où est le piège ?
Le piège, c'est de confondre solidité financière et permission d'investir partout. Richemont affiche 22,4 milliards de ventes sur son exercice clos en mars 2026, avec une croissance à taux constant de 11%, un résultat net en hausse et une trésorerie nette de 8,5 milliards.
C'est confortable.
Très confortable. Mais la performance est très contrastée. Les maisons de joaillerie progressent fortement, avec une marge opérationnelle d'environ 30,5%. Les horlogers spécialisés, eux, sont beaucoup plus fragiles. Chiffre d'affaires autour de 3,1 milliards, croissance publiée négative et marge opérationnelle d'environ 3,4%.
30% d'un côté, 3% de l'autre, c'est presque toute la décision en un chiffre.
Exactement. Ce contraste oblige à prioriser. Si Cartier investit, l'investissement doit aller là où la valeur et la marge se construisent. Joaillerie, haute joaillerie, haute horlogerie, savoir-faire rare.
Et pas dans l'horlogerie de volume ?
Pas en expansion nette. Le rapport recommande de geler l'expansion de capacité de volume dans l'entrée et le milieu de gamme horloger. Les volumes suisses ont reculé de façon structurelle et les clients aspirationnels se retirent. Continuer à investir comme si le cycle 2021 à 2023 allait revenir serait dangereux.
Le contre-exemple, c'est Swatch Group ?
Oui. Le rapport montre que Swatch Group a souffert fortement, avec un résultat net très comprimé. Cela illustre le risque de stock, de volume et de dépendance à une demande moins résiliente.
Donc l'enjeu n'est pas « Cartier doit-il être prudent ou ambitieux ?» L'enjeu est « Ambitieux sur quoi ?»
Très juste. Ambitieux sur la valeur, prudent sur le volume.
Parlons de la concurrence. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, tout le monde construit ou modernise. Pourquoi ce n'est pas une bulle de capacité ?
Parce que ces investissements ne répondent pas aux mêmes besoins que les anciennes expansions industrielles. Rolex investit à bulle, mais reste dans une logique de rareté et de verticalisation. Audemars Piguet inaugure une manufacture flexible, fortement automatisée sur la logistique, mais où la finition reste artisanale. Patek Philippe a dimensionné son outil pour plusieurs décennies sans chercher une croissance de volume agressive.
On construit donc des capacités qui permettent de produire mieux, pas nécessairement beaucoup plus.
Oui, la capacité devient un outil de souveraineté industrielle, pas seulement un outil de débit. Elle sécurise les composants, les mouvements, les ateliers, le service, la qualité et les délais.
Pour Cartier, la manufacture de la Chaux-de-Fonds et Val-Fleurier joue donc un rôle clé.
Absolument. Cartier dispose d'un appareil industriel intégré, mais les extensions doivent être pensées comme des modules. L'idée n'est pas de bâtir une usine géante qui suppose une demande linéaire. L'idée est de créer des paliers activables avec des ateliers spécialisés et des compétences qui peuvent monter en puissance sans diluer la marque.
Et la joaillerie change la lecture.
Elle la change complètement. La joaillerie est le segment le plus résilient et le plus rentable. Elle bénéficie des clients fortunés, de la recherche de valeurs patrimoniales, de l'émotion de marque et d'une plus grande capacité à justifier le prix par l'artisanat.
Mais elle est aussi plus difficile à industrialiser.
Oui, et c'est le point central. On ne décrète pas une capacité joaillière comme on ajoute une ligne d'assemblage. Il faut des artisans, des certisseurs, des polisseurs, des concepteurs, des contrôles qualité exigeants. La formation peut prendre 5, 10, voire 15 ans pour certains savoir-faire.
Donc, le vrai goulot d'étranglement n'est pas le bâtiment.
Non, le bâtiment prend 5 à 7 ans. Mais la main-d'œuvre rare peut prendre encore plus longtemps à constituer. Si Cartier attend que la demande soit évidente pour former, il sera trop tard.
C'est là que l'investissement contracyclique a du sens.
Oui, quand la trésorerie est solide, investir dans les talents et les modules de valeur pendant une phase de normalisation peut créer un avantage durable. Mais seulement si l'investissement reste sélectif.
Le rapport insiste aussi sur les vents contraires. Francs suisses, or, tarifs américains, géopolitique.
Il y en a trois principaux. Le franc suisse fort pèse sur les marges, car beaucoup de coûts sont en francs et beaucoup de ventes en devises. L'or est à un niveau très élevé, ce qui renchérit les pièces en or et la joaillerie. Enfin, les tarifs américains ont été un sujet majeur, mais la correction factuelle est importante. Le tarif suisse est redescendu à 15%. Il n'est plus à 39%.
Et ça change une recommandation.
Oui, cela retire l'argument qui aurait pu justifier une délocalisation industrielle aux États-Unis. Bicorp recommande de ne pas transférer la production. Il faut plutôt couvrir les risques de change et de matière, adapter le pricing et éventuellement réfléchir à un hub logistique si la demande américaine le justifie.
Pas de production américaine, donc.
Pas sur la base du dossier actuel. Ce serait coûteux, long et potentiellement dilutif pour le Swiss Made. La bonne réponse est financière et logistique, pas industrielle.
Le déclic pour moi, c'est que la capacité n'est plus un sujet de quantité, c'est un sujet de désirabilité.
C'est exactement la formulation. Dans le luxe, la capacité qui crée de la valeur n'est pas celle qui augmente le débit. C'est celle qui renforce la désirabilité, rareté, excellence, savoir-faire, maîtrise de la qualité. Expérience client.
Donc si Cartier investit dans une capacité qui banalise le produit, il détruit la valeur qu'il cherchait à capter.
Oui, et c'est le danger d'une lecture trop industrielle. Dans une industrie classique, plus de capacité peut signifier plus de parts de marché. Dans le luxe, plus de capacité mal ciblée peut signifier moins de prix, moins de tension, moins de prestige.
Ce qui explique la trajectoire recommandée, continuité adaptative.
Oui. La trajectoire A du rapport, prioriser joaillerie et haute horlogerie, geler les volumes standards, investir en flexibilité modulaire et en capital humain, couvrir change et matière. C'est une trajectoire qui conserve l'option de croissance sans se lier les mains.
Et la trajectoire déconseillée ?
L'expansion tout segment. Elle suppose un retour du supercycle, y compris sur les volumes. Or, le scénario central ne le justifie pas. Et le scénario dégradé la rendrait franchement destructrice.
Donc la recommandation n'est pas seulement stratégique, elle est aussi défensive.
Oui. Elle protège Cartier d'un risque asymétrique. Construire une capacité qui arriverait trop tard, sur le mauvais segment, avec des coûts fixes élevés et une demande moins profonde.
Si on passe du diagnostic à l'action, quelles sont les premières décisions à prendre ?
Première action, geler l'expansion de capacité de volume dans l'horlogerie d'entrée et de milieu de gamme. Cela ne veut pas dire abandonner ces lignes. Cela veut dire ne pas engager de nouveaux capex lourds tant que les volumes sectoriels et la rentabilité ne montrent pas un signal clair.
Deuxième action.
Accélérer la capacité de valeur. Concrètement, recrutement et formation d'artisans, sécurisation des approvisionnements en métaux et pierres, modernisation des ateliers, montée en compétences sur audioaérie et complications.
Troisième action, la flexibilité ?
Oui. Architecture modulaire, palier activable, automatisation de la logistique et de l'usinage quand cela ne touche pas à la valeur perçue, et prévision de demande par l'IA. L'automatisation doit libérer l'artisan, pas le remplacer là où l'artisanat fonde le prix.
Et la couverture des risques ?
Indispensable. Or, change, pricing, contrat d'approvisionnement, lecture des exportations hors effet tarifaire américain. Le rapport recommande un dashboard trimestriel de pilotage capacitaire. Export horloger, prix de l'or, franc-suisse, valorisation des pairs, confiance des consommateurs aisés, dynamique Chine et Moyen-Orient.
Ce dashboard doit être un outil de contrôle financier ou un outil de décision industrielle ?
Les deux, mais surtout un outil de décision. Si le prix de l'or continue de monter, la priorité devient la protection de marge et le design produit. Si le franc suisse reste trop fort, il faut ajuster le pricing et la couverture. Si les exports hors États-Unis reculent aussi, ce n'est plus un bruit statistique, c'est un vrai signal de demande. Et si la joaillerie continue de surperformer, alors les paliers capacitaires de valeur peuvent être accélérés.
Donc les indicateurs ne sont pas décoratifs, ils déclenchent des décisions.
Exactement. Un bon dashboard ne sert pas à rassurer le comité. Il sert à décider quand ouvrir un module, quand attendre, quand réallouer les talents, quand sécuriser un approvisionnement et quand refuser une croissance trop facile mais destructrice de rareté.
Autrement dit, la donnée devient une gouvernance de l'optionnalité, pas un simple reporting de plus.
Oui, et c'est cette discipline qui évite de transformer une belle intuition stratégique en coût fixe irréversible.
Donc le plan n'est pas figé, il doit être révisé régulièrement.
Exactement. C'est la logique d'optionnalité. On engage ce qui est nécessaire pour ne pas être en retard sur la valeur, mais on garde des points de décision. Un point d'étape trimestriel, puis une revoyure complète au premier trimestre 2027.
Si tu devais résumer le message au comité de direction en une phrase.
Investissez, mais dans la capacité qui protège la désirabilité de Cartier. Pas dans celle qui transforme un actif rare en produit disponible.
Ce que je retiens, c'est que Cartier a les moyens d'agir. La marque est forte, le groupe est solide, la joaillerie tire la rentabilité. Mais l'environnement ne pardonne pas les investissements mal orientés.
C'est le cœur de l'analyse. 2026 n'est ni une année de panique, ni une année d'euphorie. C'est une année de discipline stratégique.
La décision n'est donc pas investir ou ne pas investir.
Non. La décision est où investir, à quel rythme, avec quelle réversibilité et avec quel talent.
Et surtout, comment ne pas confondre capacité et valeur.
Oui. Dans un marché plus petit en volume mais plus riche en valeur, la capacité qui compte est celle qui sert la désirabilité. Pour Cartier, cela signifie joaillerie, haute horlogerie, métier d'art, flexibilité, talent et discipline d'offre.
Dernière question ouverte pour les dirigeants. Dans 5 ans, voulez-vous avoir construit plus de volume ou plus de rareté maîtrisée ?
C'est exactement la question.
et c'est probablement celle qui fera la différence entre croissance durable et surcapacité coûteuse.
Merci Sophie pour ce décryptage.
Merci Thomas.
Vous écoutiez une e-analyse Bicorp. À bientôt pour un nouveau décryptage stratégique, bienveillant, mais non complaisant.